une dame se rend dans un magasin à chaussures pour en acheter une nouvelle paire. Le vendeur la fait asseoir et lui demande quelle est sa pointure. Elle répond alors qu'elle peut porter du 36, mais qu'elle se sent tellement mieux avec du 37 qu'elle achète toujours du 38 et parfois même du 39. Cette drôle d'histoire est une façon de dire, d'une part, qu'il faut adapter la chaussure à son pied et non pas l'inverse, et d'autre part, qu'il est nécessaire de modifier ses théories, ses croyances, pour les conformer à la réalité. Il existe de nombreux points de vue concernant l'avenir de notre planète et de l'univers en général. Pour sa part, et du début à la fin de ses prophéties, Ésaïe annonce un jugement terrible qui mettra un terme final à l'humanité telle que nous la connaissons. Certes, ça ne fait guère plaisir à entendre, mais que puis-je y faire? Je n'ai que deux choix. Regarder la vérité en face ou chercher ailleurs une théorie fumeuse qui me chatouille agréablement les oreilles. Je ne sais pas vous, mais moi j'accepte les Écritures dans leur totalité, y compris tous les passages qui dérangent ma façon de concevoir les choses, et il y en a beaucoup. Vous savez comme moi que ce ne sont pas les situations perplexes de la vie qui manquent. Je ne saurais compter le nombre de fois où j'aurais aimé recevoir une lettre d'en haut me disant ce que je devais faire. Mais rien. Le ciel demeurait obscurci, des reins même. En fait, chaque fois que je me trouve embourbé, je désire une intervention divine pour me tirer d'affaire. Ce qui, somme toute, est une attitude très humaine. Le prophète Ésaïe est en ligne directe avec l'Éternel qui lui communique d'une façon ou d'une autre, sous forme de vision ou par intuition spirituelle, tout ce qu'il doit coucher sur le parchemin, et pourtant, c'est un être humain comme vous et moi. À plusieurs reprises, Ésaïe a souhaité avec ferveur et prié ardemment afin que le Dieu du ciel intervienne pour l'aider lui et le peuple d'Israël. Je finis de lire le chapitre 63 du livre d'Ésaïe. « Oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, devant toi, les montagnes seraient ébranlées. » Ésaïe 63, verset 19. L'apparition de Dieu est présentée ici et ailleurs comme produisant un chamboulement général de la nature, y compris ce qu'il y a de plus solide et stable comme les montagnes. Dans cette supplication, Ésaïe représente les fidèles du peuple. Son cri du cœur témoigne le désir profond qu'il anime de voir l'Éternel intervenir personnellement en faveur d'Israël. Dans l'ardeur de sa prière, il demande à Dieu de déchirer cette voûte du ciel qui le sépare de lui et le cache à ses yeux, et de descendre sur terre pour punir les ennemis de son peuple. Cette prière a été faite par les hommes pieux de Juda quand les Babyloniens ont envahi leur territoire et déporté ses habitants. Le même scénario se reproduira à la fin des temps, pendant la grande tribulation, quand les rescapés d'Israël, cernés de tous côtés par l'Antichrist, lanceront un appel désespéré au Dieu de leurs ancêtres. Alors, le Seigneur répondra et descendra du ciel, dans toute sa gloire pour juger les nations. Soit dit en passant que l'Église de Jésus-Christ n'est pas concernée, car elle aura été enlevée dans les airs avant que débutent les 7 années de tribulation. Sous la nouvelle alliance où nous sommes actuellement, la prière des croyants est « Viens, Seigneur Jésus ». Je continue avec le chapitre 64. Comme le feu consume les taillis et fait bouillonner l'eau, ainsi tu feras connaître ton nom à tous tes adversaires et toutes les nations trembleraient devant toi. Ésaïe 64, verset 1er. Cette image brutale concerne le jugement des nations à la fin des temps. Ésaïe utilise 2 actions du feu pour décrire le châtiment divin contre les ennemis de son peuple. Ils seront consumés comme de la broussaille qui part en fumée et ils se dissiperont comme de l'eau qui s'évapore. C'est en punissant toute forme de mal que Dieu révèle la sainteté de son nom. Mais pour l'instant, il ne le fait guère, j'en conviens. Quand on pense à toutes les atrocités qui sont commises sans arrêt à travers le monde, on peut se demander comment le Seigneur de l'univers peut rester sur la touche sans réagir. Mais supposons que Dieu décide de juger ceux qui, par exemple, font le trafic d'enfants. Comme il est juste, il doit aussi demander des comptes à chaque être humain, moi inclus, car de nature, je ne vaux pas mieux que la racaille des bas-fonds de n'importe quel bidonville. Nous sommes tous des êtres malfaisants, capables du pire. C'est l'occasion qui fait larron, comme on dit. Je comprends, sans pour autant les excuser, que certains qui ont vécu dans des millions tellement défavorisés ont, en toute logique, suivi leur penchant naturel mauvais et sont devenus des criminels. En tout cas, voilà pourquoi, à présent, et jusqu'à ce que l'heure sonne du châtiment universel, Dieu attend patiemment que les hommes se repentent de leurs mauvaises actions et acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Je continue le texte. Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendions pas, oui, si tu descendais devant toi, les montagnes seraient bien ébranlées. Ésaïe 64, verset 2. Ésaïe fait référence à ce qui s'est passé quand l'Éternel a donné la loi à son peuple. Je lis le passage. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. À la fin des temps, quand Jésus reviendra pour juger le monde, les montagnes auront aussi leur mot à dire. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit « Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. » Je continue le texte. Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de qui comptait sur lui. Ésaïe 64, verset 3. Au nom de l'Éternel fidèle, Ésaïe puise son assurance dans le souvenir des délivrances miraculeuses d'autrefois. Il s'agit en particulier de la sortie d'Égypte qui s'est faite avec perte et fracas. À l'occasion de cet événement extraordinaire, le livre du Deutéronome rapporte que Moïse a dit « Quel Dieu n'a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple au milieu d'un autre peuple à force d'épreuves, de signes miraculeux, de prodiges, par des combats, et en intervenant avec puissance, en semant la terreur comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte et dont tu as été témoin ?» Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul applique le passage d'Ésaïe aux bénédictions divines que reçoivent les croyants. Je lis le passage. Comme le dit l'Écriture, il s'agit ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Puis Paul continue. Explique que dans le temps présent, qui est celui de la grâce, le Saint-Esprit révèle ses vérités aux enfants de Dieu. Cependant, un peu plus loin, dans la même épître, l'apôtre précise que même aujourd'hui, nous ne voyons que d'une manière voilée, comme dans un miroir, qui à cette époque était en métal poli. Mais alors, nous verrons directement, car face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière très partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Sous la Nouvelle Alliance, les croyants peuvent s'identifier avec la fidèle Israël de l'époque d'Ésaïe. Cependant aujourd'hui, les membres de l'Église de Jésus-Christ attendent leur Sauveur qui les élèvera de ce monde pour les prendre avec lui dans les cieux. Les hommes pieux qui soupirent avec Ésaïe espèrent la venue du Messie et l'établissement de son royaume sur terre. Ils ne savent pas que le Messie viendra deux fois et qu'entre sa première et sa seconde venue, il y aura une parenthèse prophétique pendant laquelle Dieu constituera l'Église universelle. Je continue le texte d'Ésaïe. « Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et se souvient de toi pour suivre les chemins que tu prescris. Mais tu t'es irrité, car nous avons péché. C'est sur ces chemins de toujours que nous sommes sauvés. » Ésaïe 64, verset 4. Ésaïe confesse le péché d'Israël et crie à nouveau à l'Éternel en mettant une fois encore devant ses yeux la détresse du peuple. Il exprime également sa confiance en Dieu en tant que sauveur. Je continue. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, verset 5. La rébellion continuelle des Israélites contre Dieu leur vaut d'être emportés comme le vent, balayés comme des fœtus de paille. Une nouvelle référence de l'exil babylonien. Mais ce que dit Ésaïe de son peuple est également vrai de tout homme. Ce passage prophétique établit la culpabilité universelle de la race humaine. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs, c'est-à-dire ceux que la loi de Moïse déclare impurs, aux lépreux par exemple, qui doit crier « Souillez, souillez !» afin qu'on s'écarte de lui. Toute notre justice, c'est-à-dire nos œuvres justes, dont nous ne sommes pas peu fiers, est aux yeux de Dieu comme des linges souillés. En hébreu, l'expression est crue, car elle désigne des linges menstruels de la femme. Ésaïe tient des propos radicaux. Nos meilleures bonnes œuvres participent à notre impureté parce qu'elles sont toujours tachées, car personne n'est capable d'accomplir une œuvre parfaite dans l'absolu, c'est-à-dire non entaché de péché. Je ne peux donc strictement rien faire qui puisse m'acquérir un mérite quelconque devant Dieu. Quelqu'un a dit, « Ce qu'il y a de mieux dans nos meilleures œuvres, c'est que Dieu nous les pardonne. » C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité qu'il est bien préférable de regarder en face afin de ne pas se faire d'illusions sur soi-même et sur sa conduite pieuse et méritante. Je continue le texte. Personne ne t'invoque, personne ne se ressaisit pour s'attacher à toi, car tu t'es détourné de nous et tu nous as fait défaillir sous le poids de nos fautes. Ésaïe 64, verset 6. Israël est dans un état moral et spirituel délabré, déplorable, ce qui explique pourquoi Dieu l'a châtié en l'exilant à Babylone pour lui apprendre à vivre selon les préceptes qu'il lui avait donnés dans la loi de Moïse. Ésaïe décrit l'éloignement du peuple de l'Éternel comme un phénomène généralisé, sans mentionner les exceptions dont il parle ailleurs. Du reste, celles-ci ne sont que relatives, puisque nul n'est juste devant Dieu. De plus, même les meilleurs et les plus pieux des hommes, comme Daniel ou Esdras, se sont identifiés avec la masse coupable du peuple, confessant leurs péchés comme les leurs. Je continue. Et pourtant, Éternel, toi tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe a déjà utilisé deux fois l'image du potier. Ici, il fait un suprême appel à la grâce de Dieu. Sa supplication, dans laquelle il demande l'intervention divine, ne se fonde pas sur quelques mérites d'Israël, mais sur le fait que l'Éternel l'a choisi pour être son peuple. Et si Ésaïe compare le peuple à l'argile, c'est pour bien montrer qu'il est totalement impuissant à se racheter, à se sauver et à s'améliorer. C'est Dieu qui l'a formé pétri une première fois et lui seul peut le remodeler. L'Éternel est certes le Père d'Israël, mais il existe différents niveaux bien distincts de paternité. Dans un sens impersonnel, Dieu est Père des hommes et aussi de tout ce qui existe en vertu de son acte de création. Un peu comme celui qui conçoit un projet, façonne une œuvre d'art, qui est l'auteur d'un roman ou fabrique un objet. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul l'explique aux Athéniens quand il leur dit « C'est en lui, Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer les moindres ressemblances entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. L'Éternel est le Père d'Israël dans le sens que sa paternité envers lui est collective et non pas individuelle, comme c'est le cas sous le régime de la Nouvelle Alliance où les croyants sont nés de nouveau ou d'en haut, conçus par le Saint-Esprit. Dans son évangile, Jean écrit « À tous ceux qui ont reçu en Jésus-Christ la lumière d'en haut, à tous ceux qui croient en son nom qu'elle représente, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non d'une naissance naturelle, ni de l'impulsion d'un désir, ni d'une volonté humaine, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Tous les hommes sont donc enfants de Dieu dans le sens qu'ils ont été créés par lui. Mais très peu sont des enfants issus d'une naissance spirituelle due à son Saint-Esprit. Seuls ceux qui ont une foi personnelle en Jésus-Christ sont nés de nouveau dans la famille de Dieu. Je continue le texte d'Ésaïe. « Ne sois pas courroucé à l'excès, Éternel, ne tiens pas compte à toujours de nos fautes. Et daigne porter tes regards sur nous tous qui sommes ton peuple. » Ésaïe 64, verset 8. Ésaïe continue à supplier l'Éternel sur la base qu'il a choisi Israël pour son fils. Et il demande à Dieu de lui accorder à nouveau sa faveur. Je continue. « Voici, tes villes saintes sont dépeuplées. Sion est un désert. Jérusalem est désolée, et notre temple saint, la maison magnifique où nos ancêtres te louaient, est devenue la proie des flammes. Ce qui nous était cher est tout en ruine. » Ésaïe 64, les versets 9 et 10. Les villes d'Israël sont appelées saintes parce que toute la terre promise est la propriété de l'Éternel et donc un territoire sacré. La désolation décrite ne correspond pas à la situation lorsqu'Ésaïe a prononcé cette prophétie. Mais elle s'est accomplie environ un siècle plus tard quand les Babyloniens ont envahi Juda, ont mis le feu à Jérusalem, au temple, et ont démantelé les remparts de la ville. Je finis de lire le chapitre 64. « Face à tant de misère, peux-tu, ô Éternel, demeurer sans rien faire et garder le silence ? Vas-tu nous humilier encore au-delà de toute mesure ?» Ésaïe 64, les versets 11 et 12. Devant un tel désastre, Ésaïe demande à l'Éternel s'il pourra contenir plus longtemps sa pitié pour son peuple, ainsi que son indignation contre les oppresseurs babyloniens. Si Dieu n'intervient pas, son châtiment sera excessif parce qu'il aboutira à la destruction totale de la race d'Israël et donc à sa disparition définitive. Mais un tel scénario est inimaginable en vue de toutes les promesses que l'Éternel a faites, en particulier au patriarche Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'au roi David. La compassion de Dieu finira par prendre le dessus sur le jugement. Ésaïe termine sa prière en demandant « Éternel, vas-tu refuser d'agir en faveur de son peuple ?» Le reste des prophéties du livre répond à cette question. Dieu a repoussé Israël après que ce dernier l'ait rejeté. Mais ça ne modifie en rien ni son plan, ni ses objectifs, ni pour le peuple choisi, ni pour le monde. Rien ni personne ne peut changer ce que Dieu a résolu. Nous arrivons au chapitre 65 qui contient la réponse de l'Éternel à la prière d'Ésaïe et des Israélites fidèles. par la voix de son prophète. Dieu explique que s'il a traité son peuple avec sévérité, ce n'est pas parce que ses sentiments à son égard ont changé, mais c'est à cause de ses rébellions incessantes qui l'ont irrité. Puisqu'Israël le rejette depuis si longtemps, l'Éternel l'abandonne pour se tourner vers les païens qui, eux, le recevront. Cependant, l'Éternel ne détruira pas la totalité de son peuple, mais séparera avec soin les fidèles des impies, et chacun recevra la part qui lui est due. Le discours de Dieu se termine par une description de l'ordre nouveau qui créera, et dans lequel les élus jouiront d'une félicité parfaite. Je commence de lire le chapitre 65. Je me suis laissé consulter par des personnes qui ne me demandaient rien. Et je me suis laissé trouver par des personnes qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, je suis là, aux gens d'une nation qui ne m'invoquait pas. Oui, j'ai tendu les mains à longueur de journée vers un peuple rebelle qui suivait un chemin qui n'est pas bon au gré de ses pensées. Ésaïe 65, les versets 1 et 2. Le peuple rebelle est Israël, tandis que la nation qui n'invoque pas l'Éternel représente les païens en général. Aucun reproche ne leur est adressé, car s'ils ne cherchent pas le Dieu unique et vrai, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Ayant été rejetés par le peuple qui s'est choisi, l'Éternel va au-devant des païens. Mes ancêtres ne s'intéressaient pas à Dieu, et c'étaient des animistes idolâtres. Si quelqu'un trouve le salut, c'est uniquement parce que le Seigneur va le chercher. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul cite ces deux versets d'Ésaïe selon l'ancienne version grecque. Il applique le premier aux païens et le second aux juifs. Il écrit : Ésaïe pousse même la hardiesse jusqu'à dire : J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. Mais parlant d'Israël, il dit « À longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Ce passage d'Ésaïe fait ressortir le contraste saisissant entre, d'une part, les païens, qui, bien qu'ils n'aient pas reçu la révélation divine, ont découvert Dieu parce qu'il est allé au-devant d'eux, et d'autre part, les juifs que Dieu a si longtemps cherchés et qui ont délibérément choisi de le rejeter. Israël se plaint que l'Éternel ne le traite plus comme son peuple. Dieu répond, c'est vrai. Et désormais, ce sont les païens qui seront mon peuple. Matthieu rapporte que Jésus a dit à ses contemporains, je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Si les descendants physiques d'Abraham abandonnent Dieu, il sera suscité à Abraham une nouvelle postérité spirituelle, celle-ci, parmi les païens. À un moment donné de leur ministère, l'apôtre Paul et Barnabas ont dit aux Juifs, « C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas Juifs. » Si Jérusalem refuse d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle trouvera des auditeurs ailleurs. Si Paris la refuse, cela n'arrêtera pas le raz-de-marée de la grâce de Dieu qui submergera un autre endroit ou un autre peuple au cœur bien disposé qui acceptera le salut en Jésus-Christ.